Merci pour cette présentation. On avait dit qu'on prenait un temps de questions-réponses pour nos deux premiers intervenants. Donc, si deux interventions et trois intervenants. Donc, s'il y a des questions, on est à votre disposition.
Thierry, après je me rassois, donc Thierry Danel, je suis le directeur de la fédération, donc je remercie beaucoup les intervenants, c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses, je suis un peu chagrin, il faut bien le dire, de la dernière intervention qui s'était bien déroulée jusqu'à un moment où je pense qu'on est en 2014, alors c'est vrai qu'il faut le replacer dans le contexte probablement, mais il faut aussi dire qu'il y a eu de grands progrès par rapport à cette séparation entre la neurologie qui apparaît vilaine comme tout dans ce que vous dites, où on essaie de débusquer les méchants simulateurs et que les neurologues sont de droite en gros et débusquent les simulateurs et les psychiatres sont de gauche et sont extrêmement gentils et ont des traitements ou merveilleux ou pas merveilleux. Donc je pense qu'il faut mettre des bémols, hein, simplement, il n'y a pas d'agressivité dans ce que je dis, mais continuer, 100 ans plus tard, à véhiculer ce genre de discours, éculé, hein, il faut bien le dire, et ne pas voir qu'effectivement les deux spécialités qui étaient à l'époque extrêmement proches, qui se sont séparées, qui commencent encore à se rapprocher, je crois que là, il y a un raccourci, hein, et quelque chose qui est trop à la hache, quelque chose qui me semble beaucoup trop tranché, pour pas dire qu'aujourd'hui l'approche est à la nuance et qu'effectivement peut-être que en 1914 il n'y avait pas de nuance, hein, mais aujourd'hui qu'on serait beaucoup plus dans la nuance et que la séparation telle que vous la présentez comme si elle perdurait, je crois qu'aujourd'hui, elle ne perdure pas. Et au contraire, on est dans ce rapprochement. Voilà, je suis un tout petit peu chagrin. C'est bien pour ça que je me permets de prendre la parole et de vous poser la question pour resituer les choses. Actuellement, dans une perspective, nous sommes en 2014.
Voilà, oui, en effet, il m'aurait manqué 5 minutes de plus, peut-être. Pour développer ça.
Je vous remercie.
Pour expliquer un peu, c'est vrai que dans la première partie sur la partie historique en fait, dans la première partie des travaux, il y a souvent des positions assez tranchées sur la question de la simulation en fait. La question de la simulation, c'est quelque chose qui divise beaucoup les historiens, et c'est pour ça que j'ai fait une petite aparté sur la question que c'était pas forcément le type de médecin, mais plutôt la position qu'il occupait, par exemple par rapport à l'armée, par rapport au front, qui pouvait déterminer en fait sa manière de se positionner. Hein, parce qu'en effet, il y a des neurologues qui ont des positions très, très modérées, hein, et des psychiatres qui ont inversement des positions un peu plus. Hein. Voilà. J'espère que ça vous convient.
Peut-être aussi répondre, si vous permettez. Il est difficile de lire les choses de ce qui sont passées en 1914 avec là, l'esprit, tout ce qu'on sait du PTSD, tout ce qu'on sait de choses comme ça. Et ça, je crois que c'est tout à fait difficile. Et ça, c'est compliqué. Est-ce que quand on lit l'histoire, on doit être psychiatre et qu'on est médecin? Est-ce qu'on doit être le psychiatre, comme tu le proposes, de 2014, avec ce qu'on sait du rapprochement des deux disciplines, de la complémentarité? À propos, vous, c'est une histoire de famille, frère et sœur. Toi, c'est une histoire mari et femme. Donc là, on voit encore qu'on reste dans toutes ces histoires-là.
J'ai fait de la neurologie.
Et tu as fait de la neurologie. crois qu'il faut, se méfier, oui, de lire la réalité de 1914 avec ce que l'on sait là aujourd'hui, parce que c'est important. Alors, c'est un débat parmi les historiens. Tout à l'heure, je faisais référence au livre de Jean-Yves Le Naour, qui c'est un bouquin à charge contre la psychiatrie. Et effectivement, c'est l'apothéose, tout le bouquin se termine par l'affaire Clovis-Vincent. Clovis-Vincent, qui est par ailleurs, pour la petite histoire, est le chirurgien qui a opéré Ravel et qui est mort peu après l'intervention. Alors, je ne sais pas si c'est un mauvais chirurgien, mais ça, en tout cas, c'est un drôle de bonhomme très 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 connu, un personnage tout à fait important de l'époque, qui a donné son nom à plein d'établissements. Le bouquin de Guillemin, qui lui est Le Naour, lui est historien de toujours, c'est un des spécialistes reconnus, on le voit souvent à la télé pour parler de la guerre de 14 là actuellement. Monsieur Guillemin, lui, c'est un historien de la psychiatrie. Il a écrit différents livres, notamment un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Diriger les consciences, guérir les âmes » sur les interactions entre la religion chrétienne et la psychiatrie, les psychiatres du XIXe siècle, devant, vous voyez, entre les magistrats et les prêtres pour créer un petit peu leur discipline et trouver une identité. Donc là, Guillemin, lui, a une toute autre position. Il étudie plutôt des choses qui se passent dans les hôpitaux de l'arrière, dans les hôpitaux psychiatriques, où il retrouve des malades mentaux qui ont décompensé à l'occasion pendant la guerre, quand ils se retrouvent militaires, comme ils auraient pu dépenser pour toute autre raison, mais aussi un groupe de patients qu'il décrit bien, qui sont des gens, qui sont des militaires, et c'est, qui ont subi le busite et toutes les choses que vous avez décrites. Et on trouve pêle-mêle dans les hôpitaux psychiatriques très traditionnels deux populations, une population aiguë avec une pathologie qu'on dirait aujourd'hui assez réactionnelle, et puis des gens qui ont des troubles très classiques qu'on retrouve traditionnellement dans les hôpitaux psychiatriques. Et c'est vrai que les psychiatres, eux, sont habitués dans ces établissements au traitement plus au long cours, et Guillemin a un peu tendance à les présenter comme étant effectivement les bons médecins qui réforment et qui renvoient les gens dans leur famille et qui pensionnent. Parce qu'il y a aussi un des grands débats, c'est savoir qui devait être pensionné ou pas, avec tous les, bien sûr, les intérêts pour les uns et pour les autres. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi tranché, mais je crois qu'il faut se méfier de... Non, je ne sais pas. Enfin, on est d'accord.
Pardon, ce qui m'a paru important, si vous voulez, c'est le triage en première ligne. C'est un psychiatre, je crois, qui a conçu la répartition des malades, à savoir soigner sur place ou les conduire dans les hôpitaux à l'arrière. Alors il y avait deux écoles, si vous voulez, l'école allemande et l'école française, au point qu'il y avait une concurrence entre les médecins psychiatres allemands et français. Les Français ne voulaient pas que les Allemands aient connaissance des travaux, et les revues médicales étaient censurées. Ainsi, les annales médico-psychologiques en 1915 ont été censurées. Alors ça me semblait important, si vous voulez, mais également, les médecins n'avaient aucune formation, aucune. Comme vous l'avez très bien dit, on peut commencer en 1905, si vous voulez, et à part les médecins de la marine, les traumatismes psychiques étaient quasiment ignorés. Ignorés, non, ils étaient connus sous Napoléon, sous le vent du boulet, comme on disait, mais c'était un peu négligé en France. Et j'ai été surpris, si vous voulez, quand j'ai fait mes études. J'ai connu Raviat. J'ai fait mes études entre 50 et 60, si vous voulez. Je n'ai eu en faculté aucun cours sur les catastrophes et la médecine de guerre. C'était un peu la guerre d'Algérie. Quand j'étais au Val-de-Grâce, aucun cours. Donc, j'étais médecin militaire, j'étais régimentaire et puis responsable de place. Je n'ai j'avais aucune formation, si vous voulez, sur la psychiatrie militaire. Bon, maintenant, il y a eu une évolution, et il y a actuellement, si vous voulez, je trouve maintenant les choses sont bien faites. Le retour, si vous voulez, des soldats d'Afghanistan, et vous trouverez ça dans la thèse de Isabelle de Vitton, se fait à Chypre. Là, il y a un sas de décompression, et les soldats ont 3 jours de... pas de permission. Ils sont reçus dans un hôtel avec des touristes fortunés anglais et russes. Le premier jour, ensuite, ils ont la visite de l'île, une promenade en mer, et ils sont considérés comme opérationnels. Et ensuite, c'est le grand débriefing collectif, alors, et en absence de des cadres de l'armée. Donc, c'est... Et je crois que c'est très positif. Alors, dans la thèse de Vitton, elle interroge des soldats au retour d'Afghanistan. Et c'est à Chypre, si vous voulez, que se fait le débriefing. Il y a une coupure entre le retour et la France. Ensuite, pour venir sur les maladies que vous avez évoquées, c'est vrai qu'il y avait un problème entre les simulateurs et les vrais traumatisés. Il y a un médecin, un psychiatre encore, qui était responsable de la 5e et 6e armée. Il s'est intitulé expert. Il n'y a eu aucun fusillé dans sa division, alors qu'à côté, ça n'arrêtait pas. Ensuite, que dire que, de par mon expérience ou mes lectures, si vous voulez, j'ai découvert récemment, où on m'a fait connaître une lettre d'un médecin portugais qui est devenu écrivain, homme politique, qui était hospitalisé à Saint-Nom comme gazé et qui a assisté à la bataille du 9 avril où toutes les troupes portugaises ont été, soyons francs, écrasées en une journée. La bataille, on les vante, mais c'était la cohue, c'était tout un problème. Et là, il avait la responsabilité du carré des officiers gazés. Donc c'était des cadres supérieurs en principe. Et il a décrit de façon très correcte, c'est pas traduit en français malheureusement, tous les signes du stress opérationnel ou de l'état de stress post-traumatique. Et j'ai trouvé que c'était impeccable. Mais là, on voit que la préparation portugaise était nulle. Il n'y avait pas de triage, tout était mélangé, la psychiatrie, la chirurgie. Et le 9 avril au soir, si vous voulez, les blessés légers étaient partis à pied vers une ambulance. Ils ont évacué le soir du 9, alors que les malades, les malades mentales sont partis le 15. Et tous les troubles sont décrits. Et on voit, si vous voulez, que cette armée portugaise était à l'abandon. Il n'y avait aucun médecin compétent, aucun médecin spécialiste des gaz. Les ambulances, il y en avait très peu. Et finalement, les blessés sont restés à l'abandon. Voilà, médiocrité d'information.
Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
On vient de parler des gaz et on est dans le secteur de l'hypérite. La neurotoxicité de l'hypérite, elle est mieux connue aujourd'hui, 100 ans après ?
Sincèrement, j'en sais rien. Je ne sais pas si dans la salle quelqu'un a la réponse, mais je ne saurais pas vous dire.
Bonjour, je suis le vice-président des anciens combattants d'Armentières. On a fait des études sur le gaz il y a quelque temps pour une exposition. au niveau de l'hyperite, qui a été, les premiers obus sont tombés en 1917 autour de Ypres. Ça, c'est pour l'amalgame avec le 22 avril 1915, qui était du chlore à l'époque. Donc l'hyperite, c'est un vésican qui est très connu, en fait, qui a eu des grosses études qui ont été faites là-dessus à Val-de-Grâce. Et il y a toute une quantité différente de types de gaz qui étaient lancés à l'époque par l'armée allemande, qui n'étaient pas spécifiquement de l'hyperite, puisqu'en fait, ils avaient un type d'incapacitant, ensuite un type de gaz qui était qui suivait derrière, qui était donc l'hyperite, et souvent les soldats qui étaient à l'époque sous le bombardement ne supportaient pas le masque à gaz, et donc l'enlevaient, et c'est suite à ça qu'il y avait ces problèmes de pathologie par rapport à l'hyperite.